Un mouvement insurrectionnel éclate.
La commune est réclamée.
Oui, la commune.
Et des millions de bonne foi, quel est cet état social? L'inégalité le ronge. L'insolidarité le tue. Des préjugés antisociaux l'étreignent dans leurs mains de fer. Les jouissances ne sont que pour le petit nombre qui les épuisent dans ce qu'elles ont de plus raffiné. La masse, la grande masse, languit dans la misère et l'ignorance. Le salaire de l'ouvrier ne lui donne pas le nécessaire.
À qui la responsabilité? Sinon à ceux qui nous gouvernent. Ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme.
En avant pour la République, pour la commune et pour la liberté.
Place au peuple, place à la commune.
Aux armes.
Le 9, pendant la nuit, avec deux bataillons de Montmartre, Dombrowski, accompagné de Vermorel, surprit les Versaillais dans Asnières, les en chassa, s'empara de leurs pièces et du chemin de fer avec les wagons blindés, il canonna deux flancs Courbevoie et le pont de Neuilly. Son frère enleva le château de Bécon qui commande la route d'Asnières à Courbevoie. Vinoy, ayant voulu reprendre cette position dans la nuit du 12, ses hommes repoussés s'enfuirent jusqu'à Courbevoie. Paris ignora ce succès tant le service de l'état-major général était rudimentaire. Cette brillante attaque tenait à un homme, comme la défense des forts sortait spontanément de la garde nationale. Il n'y avait encore aucune direction. Qui voulait faire des pointes en faisait. La commune ne faisait pas mieux pour la défense. Elle reste sourde aux appels désespérés de Dombrowski. À peine s'il a 2500 hommes pour tenir Neuilly, Asnières, la presqu'île de Gennevilliers, et les Versaillais accumulent contre lui leurs meilleures troupes. La grande flamme de Paris voilait encore ses faiblesses. Qui n'en fut brûlé ne saura la décrire. Les journaux communeux, malgré leur romantisme, étaient ternes à côté. La mise en scène, peu de chose. Dans les rues, sur les boulevards silencieux, un bataillon de 100 hommes qui va au feu ou en revient, quelques femmes qui suivent, un passant qui applaudit, c'est le drame de cette révolution simple et gigantesque, comme un drame d'Eschyle. Le commandant, en vareuse, poussiéreux, les galons roussis, les hommes, tous, cheveux gris ou têtes blondes, les vieux de joint et les pupilles de l'idée, bien souvent le fils marche à côté du père. Cette femme qui salue ou accompagne, c'est la vaillante et vraie parisienne. L'immonde androgyne née des fanges impériales a suivi sa clientèle à Versailles. Celle qui tient le pavé maintenant, c'est la femme forte, dévouée, tragique, sachant mourir comme elle aime, de ce pur et généreux filon qui, depuis 89, court vivace dans les profondeurs populaires. Si la nation française ne se composait que de femmes, quelle terrible nation ce serait, écrivait le correspondant du Times. Le 24 mars, au bataillon bourgeois de la mairie du 1er arrondissement, un fédéré dit ce mot qui fit tomber leurs armes. « Croyez-moi, vous ne pouvez tenir. Vos femmes sont en larmes et les nôtres ne pleurent pas. » Le 4 avril, au plateau de Châtillon, elles font le coup de feu, les cantinières simplement vêtues en travailleuses. Le 3 avril, à Meudon, celle du 66e, la citoyenne Lachaise, resta toute la journée sur le champ de bataille, soignant les blessés presque seuls, sans médecin. Au retour, elles battent le rappel des dévouements, les centralisent dans un comité à la mairie du 10e. « Il faut vaincre ou mourir. Vous qui dites, qu'importe le triomphe de notre cause, si je dois perdre ce que j'aime, sachez que le seul moyen de sauver ceux qui vous sont chers, c'est de vous jeter dans la lutte. Elle s'offre à la commune, demande des armes, des postes de combat, s'indigne contre les lâches. » André Léo, d'une plume éloquente, expliquait la commune, sommait le délégué à la guerre d'utiliser la sainte fièvre qui brûle le cœur des femmes.
Bonjour Laure Godineau.
Bonjour.
cette maître de conférence à l'université de Paris 13.
Oui.
Et auteur du livre La Commune de Paris par ceux qui l'ont vécu, qui est sorti en septembre 2010. Et donc, on va parler ensemble de la participation des femmes à la Commune. Mais je voudrais commencer d'abord par une présentation de la condition des femmes en France dans ces années-là.
La condition des femmes se caractérise par une soumission assez grande. Bien sûr, il faut distinguer les femmes des classes aisées qui ne travaillent pas, qui sont reléguées dans la sphère privée, et les femmes des classes populaires qui, elles, travaillent parce qu'il faut apporter un salaire supplémentaire. À Paris, donc, de nombreuses femmes sont ouvrières, en particulier dans le textile, dans la confection, dans l'alimentation. De façon générale, la situation est effectivement extrêmement dure pour les femmes à Paris, pour tout le monde, mais aussi en particulier pour les femmes pendant le siège. Alors, il faut bien voir que les femmes mariées ou concubines, non seulement subissent de plein fouet la question de la faim, et ce sont quand même elles que l'on voit donc faire la queue pour obtenir ce qui fait office de pain, pour obtenir un peu de viande qui est rationnée, pendant le siège à Paris, puisque Paris connaît la faim, le froid, du fait du blocus. C'est vrai aussi que donc, ces femmes peuvent bénéficier de cette solde du garde national lorsqu'elles sont mariées ou concubines, d'autant que la solde peut être augmentée en cas de charge de famille. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans une situation précaire. Et ce qui a existé au XIXe siècle, hein, et qui est une réalité, probablement se développe au moment du siège, à savoir cette prostitution effectivement épisodique, qui est une pratique assez répandue, hein, c'est-à-dire donc des femmes ouvrières qui, pour accroître l'argent disponible, se livrent à la prostitution. Ça peut être des femmes célibataires, mais ça peut tout à fait aussi être des femmes en ménage, pour dire les choses clairement, qui ainsi arrondissent l'argent du ménage par cette pratique. Par ailleurs, est toujours en vigueur le Code civil de 1804, le Code civil napoléonien, qui prévoit une réelle soumission de la femme mariée à son mari, une dépendance très grande. Et en ce qui concerne leurs droits dans la famille sont assez limités et leurs droits politiques sont pratiquement inexistants puisque les femmes ne votent pas. Le suffrage universel a été instauré en 1848, mais c'est le suffrage universel masculin qu'il faudra attendre le XXe siècle, 1944, pour que les femmes aient le droit de vote et pour qu'elles votent la première fois en 1945. Donc, globalement, une assez grande dépendance, une assez grande soumission. Il y a quand même des féministes minoritaires à Paris essentiellement qui revendiquent une égalité plus grande et le droit de vote, mais encore une fois, c'est une toute petite minorité. Il y a une situation plus spécifique à Paris, en particulier dans les classes populaires. D'abord, en ce qui concerne, on pourrait dire, le mariage, puisque un grand nombre de couples vit en concubinage pour des raisons d'abord matérielles, c'est-à-dire que le mariage coûte cher, et puis parfois pour des raisons qui sont plus liées à la volonté de chaque membre du couple. Il y a aussi une situation particulière dans le travail, puisque ces femmes travaillent et peuvent avoir des métiers qui sont proches de l'artisanat, comme les hommes d'ailleurs. Dans le reste de la France, elles peuvent avoir des emplois tout à fait non qualifiés. À Paris, il y a toutes ces femmes, à la fois du petit commerce, mais aussi toutes ces femmes de la petite industrie ou encore de la petite boutique. Et puis enfin, à Paris, à la fin du Second Empire, on a un certain nombre de femmes militantes qu'on voit apparaître. Il y a Louise Michel à Montmartre, mais il y en a d'autres, comme Paul Minck, par exemple, qu'on va retrouver pendant la Commune.
Il y a un certain nombre de femmes qui commencent à s'organiser.
Alors on voit apparaître donc effectivement un certain nombre de militantes à la fin du Second Empire qui s'organisent à la fois autour de la thématique sociale et là en fait elles se distinguent assez peu des hommes, hein. Il s'agit d'obtenir un certain nombre de droits sociaux ou d'aider les plus nécessiteux comme on dit à l'époque. Il y a des femmes qui adhèrent à l'international, il y a des femmes aussi qui cherchent à aider à l'instruction. Encore une fois, c'est le cas de Louise Michel qui a fondé une école à Montmartre, qui est institutrice à Montmartre. Et puis, il y a des femmes qui revendiquent aussi, quelques-unes, des droits de la femme plus importants. C'est le cas d'André Léo, que l'on voit dans les journaux d'opposition à la fin du Second Empire, qui revendique une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. C'est le cas aussi des femmes qui font partie du Comité des femmes, que l'on voit apparaître pendant le siège. Comité des femmes qui revendique lui aussi une plus grande égalité hommes-femmes, mais dont la spécificité est d'avoir été lancée par un homme, Jules Alix. Donc là aussi, on est dans une certaine ambiguïté.
On ne va pas en rester sous la Commune à des organisations de femmes impulsées par des hommes, si ?
Non, sous la Commune, il y a des femmes, et en fait, c'était déjà le cas sous le siège et à la fin du Second Empire. De façon plus importante, sous la Commune, il y a des femmes qui impulsent un certain nombre d'initiatives. On voit des clubs de femmes, déjà. Non seulement les femmes participent à des clubs le soir, clubs qui sont mixtes, où elles prennent la parole, donc où elles montent en chair, comme on dit. Mais il y a également des femmes qui fondent des clubs spécifiquement féminins, comme le club de la Boule Noire qui est fondé à ce moment-là. Et puis, il y a également des femmes qui impulsent des comités, qui lancent des appels pour aider la commune, en particulier pour aider la commune dans le soin aux blessés, mais pas seulement. En avril, il y a la fondation de la fameuse Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. L'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, on le voit, il y a une volonté de développer l'aide matérielle, de former des ambulances, de faire appel aux citoyennes pour qu'elles soient ambulancières. Mais en réalité, cela va beaucoup plus loin, puisqu'il y a aussi la volonté de développer les associations ouvrières de production, donc des ateliers coopératifs de femmes, en rapport avec la commission du travail de Léo Frankel. Donc on le voit, il y a des femmes dans les clubs, qui impulsent des clubs, il y a des femmes qui lancent des appels donc, pour former des ambulances, il y a des femmes qui forment l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, et puis il y a aussi des femmes combattantes, des femmes en costume de garde nationale et qui vont combattre non seulement sur les barricades, mais qui vont combattre également contre les Versaillais au mois d'avril.
Les femmes multiplient les actions et interviennent sur les deux fronts, civil et militaire. André Léo crée le journal La Sociale, auquel participent Anne Jacquelard. Sophie Poirier et Béatrice Excoffon animent le comité de vigilance de Montmartre et avec les ateliers, donne du travail aux femmes. Nathalie Lemel et Elisabeth Dimitriev, arrivées à Paris en mars, fondent l'Union des femmes le 11 avril. Elles lancent un appel aux citoyennes de Paris. Citoyennes, l'heure décisive est arrivée, que s'en soit fait du vieux monde. Nous voulons être libres. Le soir, une réunion est organisée à 20h, 79 boulevard du Temple, au Grand Café de la Nation. Mardi 11 avril, eut lieu la réunion des citoyennes, convoquée dans le but d'organiser dans chaque arrondissement des comités destinés à servir de bureaux d'enregistrement, de renseignement et de direction pour les citoyennes patriotes résolues à soutenir et à défendre la cause de la Révolution. Soit en constituant des corps réguliers pour le service de l'ambulance, soit en formant des compagnies prêtes, au moment du danger suprême, si Paris était envahi, à construire des barricades et à s'y battre, ensemble. Il y va du triomphe ou de la défaite, des principes vitaux de l'humanité, la liberté luttant contre le despotisme, le travail contre le capital, l'avenir enfin contre le passé. Des comités se sont organisés pour la plupart des arrondissements. La liste des membres des comités sera insérée sous peu dans tous les journaux démocratiques. Une adresse des citoyennes, signée des membres du comité central provisoire, a été envoyée à la commission exécutive de la commune, lui demandant de fixer des locaux pour les comités afin qu'ils puissent y siéger en permanence. La commission exécutive de la commune a adhéré à la demande et l'installation des comités va s'effectuer. Le comité central des citoyennes tâchera de se mettre en rapport avec les commissions d'ambulance et de barricade du gouvernement afin d'aider de toutes ses forces au travail de la commune. Une seconde réunion convoquée par le comité a eu lieu aujourd'hui 13 avril. Une quête faite à la réunion a produit 20 francs. La commission exécutive de l'Union des femmes comprend 7 membres. Nathalie Lemel, Aline Jacquier, ouvrière, Blanche Lefèvre, modiste, Marie Leloup, couturière, Aglaé Jarry, Elisabeth Dimitriev et Madame Collat. Des comités sont créés dans chaque arrondissement, tous présidés par des femmes. Des permanences sont assurées tous les jours. Le 14 avril est publiée une adresse des citoyennes à la commission exécutive de la commune. Les citoyennes, considérant que le péril est imminent et l'ennemi aux portes de Paris, que la rénovation sociale a le même intérêt pour les citoyens que les citoyennes, qu'au cas où l'ennemi viendrait à franchir les portes de Paris, les citoyennes sont prêtes à se battre et vaincre ou mourir pour la défense de leurs droits communs. Le texte est signé par les citoyennes déléguées, membres du comité central des citoyennes. Adélaïde Valentin, ouvrière. Noémie Collieul, ouvrière. Marquand, ouvrière. Sophie Gray, ouvrière. Joséphine Pratt, ouvrière. Céline Delvinquier, ouvrière. Aimée Delvinquier, ouvrière. Elisabeth Dimitriev.
Cette union des femmes qui se crée donc le 11 avril, c'est à l'initiative de qui ?
Alors cette union des femmes est à l'initiative essentiellement de deux femmes. En réalité, il y en a plus, mais on retient le nom de deux femmes qui sont Nathalie Lemel et Elisabeth Dimitriev. Nathalie Lemel est extrêmement connue, en tout cas par les militants de l'extrême-gauche révolutionnaire dès la fin du Second Empire. Nathalie Lemel est une relieuse, elle fait partie de l'Association internationale des travailleurs, de l'Internationale. Elle a un lien avec Varlin, elle fonde la marmite sociale. Et Nathalie Lemel s'associe avec Elisabeth Dimitriev, qui elle a un tout autre profil. C'est une Russe, une aristocrate russe, fille illégitime d'un officier russe, qui a contracté un mariage blanc pour avoir une certaine liberté, qui passe un moment en Suisse, puis en Angleterre, et qui est liée à l'international et liée à Marx, et qui est envoyée à Paris en mars 1871. Elisabeth Dimitriev et Nathalie Lemel donc impulsent cette union des femmes avec l'objectif de développer les ateliers coopératifs. Les femmes ne font pas partie du conseil de la commune, de l'assemblée communaliste, mais en revanche, on les retrouve dans les différentes commissions qui sont chargées de réfléchir à un certain nombre de projets et puis d'essayer de mettre en place un certain nombre d'initiatives. On trouve notamment un certain nombre de femmes dans la commission de l'enseignement, par exemple, où elles cherchent à développer à la fois l'école gratuite, l'école laïque et obligatoire qui n'existe pas encore, et puis où elles cherchent aussi à développer l'enseignement professionnel. C'est assez intéressant du point de vue des femmes, hein, parce qu'effectivement, au départ, c'est pour aider les blessés. Donc finalement, on retrouve un certain rôle qui est traditionnellement dévolu aux femmes, hein, c'est la femme qui soigne. Petit à petit, il y a un lien avec le travail, donc là on trouve l'idée d'un rôle social et un idéal social qui est cet idéal de l'association ouvrière. Et puis, plus les combats contre Versailles s'accroissent, et puis surtout dans le contexte de la guerre contre Versailles, il y a cette volonté de défense qui est tout à fait nette chez ces femmes. Donc finalement, on passe d'une fonction a priori plus traditionnelle, hein, l'aide aux blessés, à quelque chose de social avec les ateliers coopératifs et puis à l'idée de combat qui là permet aux femmes de rejoindre les hommes dans des rôles qui ne leur étaient pas traditionnellement dévolus. Et en même temps, il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de femmes dont on ne parle pas, qui sont toutes ces femmes finalement qui restent à la maison. Hein. Donc il y a, les femmes sont nombreuses dans les clubs mixtes, dans les clubs de femmes, mais il y a aussi toute la partie cachée, c'est-à-dire ces femmes finalement qui ne prennent pas parti et qu'on ne verra pas et qu'on ne voit pas dans Paris sous la Commune.
Comparé au Second Empire, c'est un début de progrès.
C'est un moment particulier parce que c'est quand même un moment où les femmes apparaissent. On peut dire que ça rompt quand même avec le Second Empire, même si on a vu des femmes militantes à la fin du Second Empire. Là, on a vraiment la femme qui apparaît, ou en tout cas certaines femmes qui apparaissent. On parle parfois même d'une barricade de femmes qui existe au moment de la semaine sanglante, encore que après la question est controversée, mais enfin on en parle.
La fameuse barricade de la place Blanche.
Voilà, c'est ça, la question est de savoir si vraiment cette barricade de la place Blanche a existé ou non, mais peu importe, d'une certaine façon, c'est une manière de dire que les femmes étaient là et qu'elles étaient là dans les combats. Donc oui, ça va quand même changer probablement un certain nombre de choses, mais il n'y a pas d'émancipation politique, et puis l'écrasement de la Commune fait que finalement... assez peu d'incidence, en tout cas immédiate. Ceci dit, on peut quand même dire que les féministes qu'on voit apparaître et s'exprimer davantage encore à la fin du Second Empire, on va les revoir après, dans les années 1870 et 1880, revendiquer ce droit politique et revendiquer notamment le vote, en plus d'ailleurs de la modification du Code civil et de la fin de ce statut de mineur. Mais là encore, c'est assez ambigu parce qu'il y a des femmes qui, dans ces revendications, on voit évidemment des femmes qui ont participé à la Commune, essentiellement à partir des années 1880, donc quand elles reviennent. Mais il y a aussi une nouvelle génération dans les années 1870 qui n'a pas participé à la Commune. Donc oui, c'est un moment émancipateur et en même temps avec quand même quelques nuances.
Quand on parle de féminisme à cette époque-là, dans les années 1870 en France...
Alors de quoi on parle ? On parle de petits groupes de femmes qui ont essentiellement deux objectifs. Un objectif qui est la fin de leur statut légal de mineur, donc le statut qui a été imposé par le Code civil de 1804, qui véritablement crée une soumission et une obéissance de la femme mariée à l'homme marié. Je vous rappelle que dans le Code civil de 1804, la femme n'a pas de responsabilité civile. Il est toujours en vigueur pendant le 19e siècle. Donc il y a ça. Il y a la volonté de sortir de ce statut de mineur. Et puis, il y a la volonté d'obtenir le vote. Et déjà, on commence à parler de la citoyenneté politique. Finalement, on parle assez peu, évidemment, de la question de la violence au sein des familles ou même donc, de la violence sociale. C'est vraiment les deux principales revendications.
On peut juste parler un peu de l'éducation et de l'éducation que reçoivent les femmes à cette époque.
Donc là, il y a un cas qui est quand même assez spécifique, c'est le cas parisien. Alors, globalement, les filles, de toute façon, sont moins instruites que les garçons. C'est vrai dans tous les cas. Après, on peut distinguer les classes sociales les plus hautes, donc les membres de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie et de la noblesse. Dans ce cas-là, la fille reçoit quand même une certaine éducation, mais c'est une éducation qui a pour but la femme mariée, c'est-à-dire ce sont des rudiments d'éducation. Il s'agit essentiellement de bien former la bonne épouse qui aura quelques rudiments de piano et autres, donc pour accompagner l'homme. En dehors de ça, dès la fin du Second Empire, en fait, il y a eu différentes lois concernant l'éducation. L'instruction n'est pas encore obligatoire, l'instruction n'est pas encore gratuite, elle n'est pas laïque, mais globalement, on peut dire qu'une grande partie des Parisiens sont alphabétisés à la fin du Second Empire. Avec cette différence que les femmes, les filles, sont beaucoup moins instruites que les garçons. Et puis, d'autres phénomènes, il y a beaucoup d'écoles congréganistes, c'est-à-dire d'écoles tenues par des religieux, et c'est le cas surtout des écoles de filles. Finalement, donc, si les filles sont instruites, c'est souvent dans des écoles tenues par des religieuses. C'est aussi pourquoi la Commune, d'une part, donc, a institué la séparation de l'Église et de l'État et surtout a voulu mettre en place cette école qui était une école gratuite, obligatoire et laïque pour les filles et pour les garçons. Donc il s'agissait véritablement d'obtenir une instruction pour les filles, pour toutes les filles, donc rattraper le retard filles-garçons. Et puis une instruction laïque pour éviter que les filles ne soient totalement dépendantes de l'Église et de l'enseignement religieux, de l'enseignement fait par les religieux donc dans les écoles tenues par des congréganistes. Sous la Commune également, certaines femmes vont créer des écoles, en particulier donc Paul Minck qui créera une école gratuite et laïque dans l'église Saint-Pierre de Montmartre, donc avec évidemment ce but d'offrir l'enseignement aux filles et un enseignement laïque. En réalité, cette idée d'instruction gratuite, obligatoire et laïque pour les enfants de 6 à 12 ans hein, et pour les garçons et les filles, était une volonté des républicains, en particulier des républicains radicaux. On retrouve cette idée, par exemple, dans le programme de Léon Gambetta, En 1869, donc Léon Gambetta est candidat à Belleville en 1869, et dans son programme, on retrouve cette volonté de, donc, d'école libre, enfin gratuite, laïque et obligatoire. Donc là, effectivement, c'était en fait, ça faisait partie des revendications des républicains radicaux et de l'extrême gauche révolutionnaire à la fin du Second Empire, mais la Commune essaie de mettre en place cette école. Alors le problème, c'est que en réalité, donc elle n'a pas le temps de former des instituteurs et des institutrices laïques. Et puis elle manque d'argent également pour mettre en place cette école gratuite. Donc en fait, ça dépend des arrondissements, ça dépend des volontés, mais il y a quand même un signe ici qui est assez fort en direction de tout le monde, des Parisiens et notamment des filles. Je voudrais aussi dire que la Commune, dans ses mesures, prévoit une pension pour les veuves des gardes nationaux qui ont été tuées au combat. Or, et là, c'est déjà une brèche dans le code civil, la Commune prévoit que cette pension pourra aller aux femmes mariées, mais également aux concubines des gardes nationaux qui ont été tuées, et que cette pension pourra également augmenter en cas de charge familiale. Et là, on voit bien à quel point il y a une avancée, puisque c'est véritablement aller à l'encontre de ce qui était prévu, enfin de ce que la société française vivait sous l'influence du code civil.
Versailles commençait à croire Paris imprenable malgré les dépêches de M. Thiers, le 3 avril. Cette journée est décisive pour le sort de l'insurrection. Le 4, les insurgés ont éprouvé aujourd'hui un échec décisif. Le 7, cette journée est décisive. Le 11, on prépare contre les insurgés des moyens irrésistibles. Le 12, les insurgés fuient à toutes jambes, on attend le moment décisif. Le 15, nous tenterons par une épreuve décisive de mettre un terme à cette guerre civile. Malgré tant de succès décisifs et de moyens irrésistibles, l'armée versaillaise se morfondait toujours aux avant-postes parisiens. Ses seules victoires décisives étaient contre les maisons de l'enceinte et de la banlieue. Le 6, il avait rendu le commandement d'une armée française à ce MacMahon. Monsieur Thiers envoya Jules Favre repleurer auprès de Bismarck. Le Prussien rendit 60 000 prisonniers et autorisa son confrère à porter à 130 000 hommes le nombre des soldats sous Paris qui, d'après les préliminaires de paix, ne devaient pas dépasser 40 000. Thiers montra une habileté réelle à l'adresser contre Paris. Les soldats furent bien nourris, bien habillés, sévèrement éloignés de tout contact avec le dehors. La discipline se rétablit. Ce n'était pas cependant une armée d'attaque, et les hommes détalaient devant une résistance soutenue. Malgré les vantardises officielles, les généraux ne comptaient réellement que sur l'artillerie à laquelle ils devaient les succès de Courbevoie et d'Asnières. Le canon seul pouvait battre Paris.
Comme des rades dans Paris par trahison, on nous a pris. Le macadam et les pavés de notre sang furent lavés. Lavés et tant lavés qu'ils en sont déjointés. Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, nom de nom. Les gredins de capitulaire ont massacré les communards. Mais devant messieurs les Prussiens tremblant comme des petits chiens, ils ont vendu leur peau, leur pays, leur drapeau. Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, nom de nom. Gredins sans cœur et sans remords, ils ont partout vomi la mort. Et MacMahon, pour ses forfaits, fut presque empereur des Français. Grand-duc de Biribi et roi de Satory. Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, nom de nom. À Versailles, dans le chantier, leurs soldats ont fait leur métier. À coups de sabre et de fusil, ils ont massacré nos amis. Leurs soldats à présent ont une odeur de sang. Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, nom de nom. On ne peut pas dire à Paris tous les crimes qu'ils ont commis. Il faudrait des mains de papier pour griffonner des mois entiers. Mais le jour se fera et l'histoire en dira. Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, nom de nom. Que voulions-nous, la liberté et le bien de l'humanité? Pour nous venger des chenapans, il nous faut faire des enfants, en faire des gaillards et de francs communards. Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, nom de nom.